Je suis Annie Richard.
Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Il y a une catégorie de personnes qu'on aime beaucoup, toi et moi, là, c'est les héros obscurs, hein, les héros qu'on a un peu, qui ont eu des comportements absolument hors normes, mais qui ont été un peu mis de côté. Et puis là-dessus, il y a une bonne source d'idées et d'héros qu'on peut trouver, c'est par rapport à un concours relativement à une bière.
Oui, exactement. C'est surprenant. Mais bon, à force de parcourir les journaux, j'ai réalisé à un moment donné que dans la fin des années 40, à peu près, je pense, entre 47 et 50, il y a eu un concours au Québec qui s'appelait le concours du prix de la bravoure ou d'héroïsme de la bière d'or. Il y en a qui appelaient la d'or, mais en tout cas, moi, j'appelais la
d'or. Des OW, c'est ça? Hein?
Exactement, c'est ça. C'était vraiment une brasserie de c'est une bière qui était très populaire, qui a connu un déclin à un moment donné, on en rejasera, mais un déclin là, concernant...
Oui, la cherchez pas dans les dépanneurs, il n'y en a pas. Hein.
Non, c'est ça, il n'y en a plus. On en rejasera à un moment donné, mais elle a connu un assez bon déclin là, dans les années, okay. Je pense, 60. Mais à l'époque, c'était la bière, là, tu sais. Puis, ce concours-là, c'était pour souligner des actes de bravoure qui était assez contemporain à cette époque-là. Là. C'était des actes de bravoure des années 40. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, c'est ça, ça donnait comme un petit encart publicitaire où on avait comme une bande dessinée de l'acte en question avec la personne. T'avais de tous les styles. Hein. Des fois, c'était une jeune fille qui a sauvé un enfant dans au lac Saint-Jean. Tu peux avoir un petit garçon même qui a sauvé un ami en le sortant de la glace dans le fleuve Saint-Laurent parce qu'il s'est aventuré trop loin sur une glace trop mince, ou jusqu'à un camionneur qui a évité... Oui. Bon.
Des gestes héroïques du quotidien, mais qui mériteraient dans le fond d'être soulignés.
Oui,
malgré tout. Là.
Exactement. Ben, tu sais, ça existe encore, je pense, il y a des médailles. Il y avait la médaille George Cross,
okay.
La croix de George. Il y avait... en tout cas, il y en a eu plusieurs. Là.
Des fois,
de civisme. Là,
c'est ça. Il y a des cérémonies, il me semble, à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, parfois, des remises de médailles où certains corps policiers aussi vont
médaille
le faire.
Du gouverneur,
ça aussi.
Oui. Mais à l'époque, bon, ça, c'était peut-être un peu moins prestigieux, je ne sais pas, là, mais c'était quand
ça
même...
Ça reste une brasserie.
Ça reste une
brasserie. Mais quand même.
J'haïrais pas ça, moi, une médaille de la Labatt 50, là, c'est pour quelque chose, mais bon. Je ne suis pas rendue là, malheureusement, à un moment donné. Mais c'est ça. Là, il y avait les prix de la brasserie d'art. Et il y en avait beaucoup. Je les ai toutes... quand je suis tombée là-dessus, je les ai toutes prises. En fait, toutes prises en capture d'écran pour les investiguer un peu. Il y en a même que j'ai réussi à rejoindre de la descendance. Dire, hey, ton arrière-grand-mère, tu sais, quand même. Elle avait empêché un cheval de ruer son mari. Puis elle avait eu 100 $ en 1949, admettons.
Quand même.
Puis...
Fait que, une véritable mine, dans le fond,
oui,
d'information.
C'est ça. Puis si on peut faire le pont dans notre histoire présentement, on parle d'une histoire dans le domaine minier, justement. C'est un prix de la bière d'or qui est survenu, je crois que le prix a été donné comme fin 49, début 50, parce qu'en fait, l'événement en tant que tel, l'acte d'héroïsme a eu lieu le 27 juillet 1949 à la mine East Sullivan, j'imagine, mon anglais est approximatif, à Val-d'Or, qui est une région minière, évidemment. Cette histoire-là me fascine complètement. Là. J'en ai déjà parlé là, dans des entrevues pour ici Radio-Canada Abitibi, je pense. Il me semble que c'est ça le nom. Puis sur mon blog, je pense, là, en tout cas, c'est une de mes histoires de héros préférées parce qu'elle est vraiment...
Incroyable.
Elle est incroyable, là. Tu sais, c'est plus juste un petit acte, là. C'est comment... En tout cas, bon, j'y vais, OK? Je vais la raconter. Tu sais, on a la mine East Sullivan, mais des fois, Bourlamaque. Peut-être que c'était le même nom aussi, hein, tu sais, des fois, les noms... tu sais, le Centre Mawson, je l'ai appelé longtemps de même avant de dire le Centre Bell, hein. Fait que, tu sais, des fois, il y a des noms changent.
Nouveau
là,
forum.
Pardonnez-moi, les gens de l'Abitibi, si je nomme pas la bonne mine, mais c'est... En tout cas, c'est supposé être la mine East Sullivan. Et notre héros en question n'est pas un Canadien français de l'Abitibi. C'est un Polonais qui venait d'arriver, ça faisait seulement 3 mois. C'est un Polonais qui venait de passer même, je pense, 3 ans dans une prison ou un camp de concentration en Allemagne et qui faisait partie des réfugiés, qui est débarqué en Nouvelle-Écosse, je crois, et qui était déjà nommé comme étant un spécialiste mineur. Je l'ai même trouvé dans des registres de passage, là, de bateaux. Mais il était un spécialiste des mines.
Ça me fait penser, petite parenthèse, là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un savoir-faire polonais, parce que je me souviens que dans le nord de la France, il y a une grande région minière également, mais charbon. Il y a énormément de Polonais qui sont
ah
là.
Oui?
Ah oui? C'est incroyable. Pareil un peu dans l'Est, là, côté Lorraine. Pareil, des mines. Donc, on dirait, je ne sais pas d'où ça vient. Là, il faudrait peut-être fouiller.
Pensé.
Peut-être qu'il y a beaucoup de mines. Il y avait beaucoup de mines de charbon, par exemple, ou d'autres choses en Pologne. Et que, bah, de fait, les Polonais qui décidaient d'immigrer, eh bien, c'était naturellement vers les mines qu'ils allaient travailler.
Ah, c'est tout à fait possible. Il était immigrant. C'est écrit dans son passage de bateau qu'il était un spécialiste des mines. Ouais.
D'accord.
Donc, parlant ni français ni anglais, il est arrivé à Val-d'Or.
En plus, ouais.
Il n'était pas le seul, c'est ça. Il y avait même un aumônier, je pense, polonais. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Là. Je ne sais pas si on appelle ça un aumônier, mais en tout cas, il y avait une petite communauté polonaise à Val-d'Or. Fait que je pense qu'il n'était pas le seul. Comme tu dis, il y avait des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, il est arrivé, ça faisait 3 mois. Malgré, il devait être bon, là, parce que malgré qu'il ne parlait pas la langue, ça coulait, là, le travail. Là, ça allait bien. Là. Fait que il devait savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse.
Ouais,
là, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est pas ta langue... Tu comprends pas, s'il faut que tu te fasses trainer, si on peut dire entraîner pour refaire le travail, mais ça serait compliqué. Et là, bon, ce fameux 27 juillet 1949, là, il était, je pense, en tout sept hommes, c'est-à-dire lui, le Polonais, qui s'appelait Wakla Koltan, mais je pense qu'on nomme Vaclav. Parce que
Vaclav.
C'est, ouais, je pense que ça c'est se possible, nomme comme ça, mais j'arrête pas de dire Wakla parce que, bon, je suis pas habituée de, de prononcer.
Mais Vaclav, c'est vrai que c'est un prénom assez courant. Oui, c'est assez courant en Pologne. Ben, entre autres en Pologne, mais Vaclav, oui, tout à fait.
De toute façon, je l'appelle quasiment toujours Koltan.
Oui.
Je l'appelle par son nom
exact.
De famille. Koltan, c'est ça, il est en train de travailler avec 6 autres hommes. Les autres sont tous des Canadiens français de l'Abitibi, vraiment originaires de là. Et là, la mine où ils sont, là, tu sais, permettez-moi de juste faire une parenthèse que ça n'est pas mon domaine, hein, fait que j'y vais avec le plus. J'ai consulté des gens, tout ça, mais soyez indulgents, c'est pas mon domaine. Mais je vais y aller du mieux
que
je peux.
On fera pas semblant de connaître le sujet
à
100%.
Non, c'est ça. Déjà, je suis quelqu'un qui se l'avoue là, dans ce temps-là. Là, je vois pas. Non, je tirerai pas l'élastique là-dessus, surtout pas dans ce domaine-là. Donc. Ce qui se passait ce jour-là, c'est qu'ils devaient ouvrir la mine, apparemment. Tu sais, comme exploser le tunnel pour ouvrir plus loin le corridor de la mine.
Pour accéder, dans le fond, à ce qui devait aller extraire, dans le fond, à ce qui était intéressant. Là.
Probablement, c'est ça. Donc, Maurice Boucher, qui s'appelait celui qui allait faire exploser, qui allait ouvrir la mine, le corridor plus loin, allume sa dynamite, là, nommez-le comme vous voulez. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, mais oui, mais il y avait juste à enlever la mèche. » Parce qu'apparemment, que quand on allume un explosif, et là, c'est ça, comme c'est pas mon domaine, mais apparemment qu'il y a une façon de revenir en arrière en tirant sur une mèche.
OK.
Bon, OK, les gens qui savent sauront. Mais faut pas oublier que même si l'image de la brasserie d'Ao qui ont fait la bande dessinée, c'était pas là, ce type d'explosif-là. Apparemment que c'était une affaire là, comme de plusieurs pieds de long. C'était pas une petite affaire et c'était pas apparemment le type d'explosif qu'on peut enlever la mèche. Fait que je fais juste le préciser parce qu'il y a tant de gens en dessous des publications qui disaient « Ben ouais, mais oui, il avait juste enlevé la mèche. » Peut-être, là, mais là, apparemment que dans ce cas-ci, c'était pas possible. Ça aurait été écrit, j'ai l'enquête du coroner, ça aurait été écrit, ben, il était trop débutant pour penser à enlever la mèche. Ou, tu sais, je pense pas que c'est ça.
Ouais.
C'était vraiment pas ça. Je pense qu'il y avait plus de retour en arrière avec ce type d'explosif-là. Mais malheureusement, quand Maurice Boucher a voulu lancer son explosif, il y a en même temps un éboulis de roche, chose qui devait arriver dans des places comme ça, parce que justement, on explose tout. Puis il y a eu un éboulis, puis il y a une très grosse roche qui a tombé sur lui.
Oh,
mais l'explosif était déjà allumé, la mèche était déjà allumée.
Donc il était pris là.
Pris là, puis bouché. Le trou, ce qu'on doit lancer, l'explosif est bouché par non seulement l'homme qui est là, mais la roche aussi qui vient de tomber. Ça a l'air que c'était une très grosse roche. Puis encore sa main sortie avec l'explosif qui est en train de se consumer, là, la mèche, tu sais. Donc là, c'est sûr que là, Maurice Boucher était pris sous une roche, là, vraiment, une très grosse roche. Là. Ça bouchait complètement, il ne pouvait pas envoyer l'explosif dans le couloir. Donc finalement, mais trop tard, c'était déjà allumé.
Mm-hmm.
Donc Coltan a pris l'explosif qui était allumé et a couru comme une flèche pendant que les autres se demandaient « Mais qu'est-ce qu'il fait, là? »
Ouais, ils ne comprenaient pas la situation.
Pourquoi tu pars à courir comme ça? Et finalement, rapidement, ils ont compris que, ben, ou en tout cas, ils ont compris, c'est sûr qu'ils ont dû être sonnés assez un bout de temps, là, parce qu'il a explosé. Il s'est carrément sacrifié, puis il s'est explosé. Puis même à un point tel que ils ont été légèrement blessés. Puis c'est apparemment qu'il y a même un des mineurs qui a gardé toute sa vie un éclat d'os, un tout petit éclat d'os de Václav Coltan dans son œil. Fait qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Coltan, probablement, quand il a vu ça, il s'est dit ben, on va tout y passer, là, tu sais, on va tout sauter. Mm. Là, c'était un explosif vraiment, là, tu sais, de gros calibre, là, je sais pas comment dire. Puis il s'est dit, mais comment tu peux, en tout cas, moi, c'est ça qui vient me chercher, c'est qu'il s'est dit, ben, tant qu'à ce qu'on va tout y passer, m'a courir comme une gazelle à n'en plus finir, puis je vais y passer tout seul. Et c'est ce qu'il a fait. T'sais? Puis ces hommes-là, les cinq autres, c'était tous des hommes qui étaient assez jeunes. Puis j'ai fait le calcul, là, parce que j'ai même des personnes qui ont écrit sous mes publications. Je le sais, je serais pas en vie présentement. Mon père est un de ceux qui a été sauvé par ce Polonais-là.
Okay.
Puis j'ai calculé, là, c'est en 49, là, il y aurait en ce moment pas loin de 250, peut-être 300 personnes de vivantes, si on va avec, mettons, une statistique, là, on s'entend, de personnes vivantes, parce que c'est comme trois générations depuis, là, tu sais, une génération, c'est à peu près 25 ans, puis ça donne à peu près ça de personnes qui sont vivantes aujourd'hui
en
Abitibi-Témiscamingue, puis qui seraient pas là, parce que ces hommes-là étaient pas tous, ils avaient commencé à peine leur famille, c'était des hommes, pas tous de 20 ans, là, quand même, là, je me rappelle plus exactement les âges qu'il y avait, mais il a sauvé plusieurs générations. Mais c'est que dans la panique, en sachant que tu vas mourir, tu sais, déjà, il faut que tu gères dans ta tête très rapidement, je vais mourir, là. Ce qui était relaté dans les journaux, c'est qu'il avait fait un acte d'héroïsme. Mais moi, je me disais, mais oui, mais tout d'un coup, tu sais, ce monsieur-là, ça le disait, tu sais, il parlait même pas français ni anglais. Est-ce qu'il pensait qu'il allait réussir à le pitcher?
Mm-hmm.
Est-ce que c'est quoi au juste? Mais ce qui est ressorti dans l'enquête du coroner que je suis allée chercher, ben que j'ai obtenu à partir de la BANQ de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est que il savait très, très bien, il paraît que c'était vraiment un bon employé, il savait ce qu'il faisait. Il savait très bien qu'il s'en allait se faire sauter
C'était un aller simple.
Il savait qu'il pouvait pas lancer ça. Peut-être qu'il a essayé, là, mais c'était il y a eu la présence de, ou en tout cas le courage, on va se le dire, de dire que c'est soit moi tout seul ou toutes nous autres. Anyway, moi, je vais mourir pareil. Donc, je vais courir comme un malade mental.
Vaut mieux qu'il y en ait juste un sur...
Puis je vais me sauter tout seul. Je vais me sacrifier. Puis les autres vont être vivants. Puis en plus, ils venaient de sortir d'un camp de concentration, d'une prison, en tout cas en Allemagne. Ils venaient de vivre quand même sûrement beaucoup de privations dans sa vie. Là.
Ouais.
Il n'y a pas de famille. Il n'était pas marié. Tu sais, c'est... En tout cas, moi, ça... Il y a eu évidemment des funérailles civiques, là. Il y a une belle pierre tombale, je pense à Val-d'Or, là. Puis, ben, il y a eu une médaille posthume. Sauf que ce qui se passait, c'est que vu que c'était un réfugié qui est arrivé ici, immigrant, en sachant même pas que, en fait, il pouvait même pas jaser avec les gens, fait qu'on savait très peu de choses sur lui. Tout ce qui a été... Ils ont réussi à sortir son dossier, en fait, de un dossier de la guerre, si on peut dire, je sais pas, de... Mais en fait, c'est relié à sa médaille de bravoure, en fait, le dossier qui a été sorti. Ça indiquait finalement que c'est un homme, c'est ça, qui est né en 1916 en Pologne, de religion catholique, qui a été... qui fait partie du International Refugee Organization, en tout cas, les réfugiés, depuis novembre 1947, qui a été éligible pour pouvoir... s'en aller vers Halifax, Nouvelle-Écosse, en 1948, pour ensuite s'en aller là, dans le département des mines à Val-d'Or. Puis c'est tout ce qu'il savait sur lui, sinon qu'il savait qu'il y avait une sœur qui s'appelait Anna Coltan et qui pense que cette femme-là travaille en Pologne. C'est tout ce qu'il avait sur lui parce qu'il essayait de, au moins, dire à la famille, et de un, il est décédé, et de deux, on veut vous remettre la médaille de bravoure de votre défunt dans la famille. Je sais qu'au niveau là, du pont qui aurait pu être fait là, avec je ne sais pas quelle organisation, ça n'a pas fonctionné parce que c'était considéré comme, je pense, quelqu'un qui était réfugié finalement et qui méritait peut-être pas cette attention-là.
Ouais, qui avait quitté son pays. Puis,
c'est ça. Il n'a pas voulu servir pour nous, en tout cas. Puis donc, on ne va pas.
Il y avait peut-être aussi, parce que je pense à ça là, pendant que je t'écoute, il y avait peut-être aussi le problème que la Pologne était passée avait été occupée par l'Allemagne, mais qu'après la guerre la Pologne était sous le joug de l'Union soviétique. Peut-être que, étant donné que c'était, tu sais, derrière le rideau de fer là, c'était le début de la guerre froide, peut-être que là c'était compliqué, que le Canada, même si c'est une entreprise de brasserie là, remettre une médaille.
Ah, mais là, c'était la médaille, c'était une médaille des mines. Là. La bière d'or, c'était un 100 $ là, médaille. Oui, il y avait une médaille, mais non, il y avait une médaille de bravoure.
D'accord.
Des mines et métallurgie. L'Institut canadien des mines et métallurgie, puis il y avait aussi la George Cross qu'il allait avoir. Là.
Ah oui.
La croix de George, je pense, en français. Là. Je pense que c'est vraiment traduit de la même. Tu sais, aussi simplement que ça. Ouais. Puis. Tout ça, mais tu sais, c'est au-delà de la...
Mais c'était peut-être relié aussi quand même à ça, tu sais.
Sûr. Ouais. D'après moi, c'est vraiment le fait que, dans le fond, il ne voulait pas accorder aucune attention à ça. Mais c'est surtout de pouvoir dire à la famille, moi, je trouve ça incroyable que peut-être que la famille n'a jamais su que ton petit frère ou, tu sais, ton fils ou quelque chose, tu sais, ou quelqu'un a fait ça, tu sais. C'est peut-être des gens, en plus, qui n'ont jamais su... qui était porté disparu d'une certaine façon. T'sais. Peut-être qu'il en a donné des nouvelles pendant ces trois mois-là, qui était à Val-d'Or, puis à un moment donné, il n'en donnait plus. Puis parce que, ou va savoir, peut-être qu'il y a quelqu'un à Val-d'Or, vu qu'il y avait une communauté un peu polonaise, puis tout ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pu passer le message, mais en gros, je pense que non. Et c'est ça, dans le coroner, ce qui était écrit, c'est que, en fait, il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait, que sur le coup, quand ils l'ont vu partir à courir comme ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis finalement, ils ont vite compris, là, quand que finalement, ils ont eux-mêmes failli mourir. Les hommes, ils ont essayé avec une barre de fer aussi de sortir Maurice Boucher de la roche. Mais c'est ça, il était déjà trop tard, là. Il était asphyxié, là. Il a manqué d'air. Il était écrasé, finalement. Ouais. Là, c'était vraiment une grosse roche. Eux, ils ont vu Coltan, là, juste comme prendre de quoi, partir à courir, puis... Puis ça, je sais même pas, apparemment, c'était vraiment là, des morceaux. Tu sais, comme pas, on retrouve la tête, la jambe, non.
Il a été déchiqueté, là.
Il était réduit en poudre, quasiment, là. Fait que c'est sûr qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il s'en allait vers une mort certaine, mais que les autres allaient peut-être être épargnés. Puis ça, ce fut le cas, là, finalement.
Wow.
Ça a été vraiment un geste. Là, ce que j'ai fait après, c'est que c'était plus fort que moi. Je me suis abonnée à plein de groupes et de sites de généalogie polonaise.
OK.
C'était pas facile, là.
Mais non.
Fallait que je me fasse accepter. Tu sais, Annie Richard, qui veut rentrer dans le groupe. Pour quelle raison? Tu sais, souvent, les groupes de réseaux sociaux comme ça, c'est...
Ils te posent un questionnaire.
Tu sais, comme ils te posent un petit questionnaire pour savoir si tu fites, tu sais, dans... Mm-hmm. Mais là, pas tant, hein, de Tétroville à Pologne, là. Tu sais, J'essaie d'expliquer en anglais, mais tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui comprenait. Puis finalement, j'ai trouvé une fille. Il n'y a pas beaucoup de coltan en Pologne en passant. Il y en a vraiment très peu. Là. Au moins, je ne suis pas tombée sur les tremblés de la Pologne. Là, ouais, ouais. C'était pas ça. Puis j'ai découvert, il y en a même une, c'est une coiffeuse qui a l'air vraiment, tu sais, qui est genre avec un Instagram avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, là, qui a l'air comme une coiffeuse de vedette là-bas, je sais pas trop. Puis elle était quand même assez interpellée. Puis elle dit, ce serait pas étonnant. Elle dit, la prochaine fois que je vais voir ma grand-mère, je vais lui demander. Puis, mais finalement, j'ai pas eu de retour. Mais sait-on jamais, là, j'avais interpellé une couple de personnes. Peut-être que je vais les relancer à un moment donné. Parce que mon but à moi, c'était juste de m'assurer. On dirait que je voulais que ça se sache. Moi, je voudrais savoir raison, que votre défunt, tu sais.
C'est ça, c'est pas courant.
Parce que 49, là, c'est pas comme si ça faisait... Tu sais, il y a des gens encore vivants qui en ont soit entendu parler de lui ou qui l'ont même peut-être connu, tu sais.
Moi, j'aimerais savoir là, que si mon grand-père a fait un acte héroïque quelque part, j'aimerais le savoir.
Ah, tu sais, oui, définitivement.
Donc, oui.
Fait que c'est mon histoire de héros favorite.
L'histoire de Vaclav Koltan.
Koltan, le héros de la mine de Val-d'Or.
C'était donc l'histoire de Koltan, le mineur polonais héroïque de l'Abitibi, dont vous pourrez retrouver une sélection d'articles de presse sur le site retrocrime.com. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Retrocrime, ainsi que sur nos comptes Instagram et Twitter. On vous invite aussi à laisser vos votes et commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Ceci aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Bye bye.